Le passage que nous allons commenter se trouve en l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, versets 18 à 24. En voici la lecture. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï. Pas de feu qui brûle, pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, pas de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que vous avez ici vraiment en condensé le message de l'Épître aux Hébreux. Le but de l'Épître aux Hébreux, qui a été écrit par un juif très pieux converti au christianisme et qui avait pour but de remonter le moral des judéo-chrétiens, c'est-à-dire ces juifs convertis à Jésus, dans l'hostilité qu'avaient les juifs de l'époque par rapport à la nouvelle foi chrétienne, eh bien, son but, c'était de montrer vraiment la différence et le changement, la profondeur qu'il y avait en plus entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Et là, ce texte se prête très bien à cette lecture spirituelle de la parole. En fait, il faut savoir, moi, plus je lis la parole, plus j'en suis convaincu, l'esprit, parce qu'il y a des auteurs humains, bien sûr, la méthode historico-critique nous dit que les auteurs ont eu leur importance, ils avaient un message qu'il ne faut pas ignorer. Mais à trop vouloir chercher ce que voulait dire l'auteur, on oublie que l'auteur avec un grand A, c'est d'abord l'Esprit Saint. Je pense que l'Esprit Saint, bien sûr, esprit veut dire spirituel aussi, c'est la même racine. Eh bien, la clé de lecture de l'Esprit, c'est justement la lecture dans l'Esprit, c'est-à-dire la lecture spirituelle comme nous allons le voir. Alors, il y a bien sûr une opposition flagrante entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance dans les deux parties du texte. Et c'est sur cette opposition qu'il faut s'appuyer pour bien comprendre ce texte. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, mais c'est le texte lui-même qui le demande. Alors, vous avez d'abord, frère, quand vous êtes venu vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï, pas de feu qui brûle, pas d'obscurité, de ténèbres, d'ouragan, pas de son de trompette, pas de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Vous avez ici une image un petit peu, bon, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on peut d'abord voir ça comme ça. Sans Jésus-Christ, d'abord l'Ancien Testament est rempli de violence, et le message de l'Ancien Testament rebute, je veux dire, dans les plus grandes parties. Il y a des passages magnifiques, bien sûr, qu'on lise le livre d'Osée, par exemple, ou certaines prophéties, ou d'Isaïe, etc. Bon, j'en passe. Mais, en gros, c'est le reproche que l'on fait à l'Ancien Testament. C'est vrai que l'Ancien Testament est rempli d'obscurité, de ténèbres et d'ouragans, et l'Ancien Testament seul donne une vision de Dieu, d'un Dieu tellement lointain qu'on en a peur. Et ce que dit la suite du texte, je ne vais pas relire tout de suite, mais dit que grâce à Jésus, le médiateur de l'Alliance Nouvelle, eh bien, l'harmonie fait son entrée. C'est-à-dire que l'Ancien Testament prend une nouvelle saveur. C'est le fondement de l'interprétation allégorique, c'est-à-dire lire l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, et notamment le Christ en tête, c'est ce que dit ce texte. Vous avez ces flammes, etc., ce Dieu tellement lointain, tellement violent, ce message de l'Ancien Testament qui est rempli de violence et qui nous laisse perplexes, chaotiques, qui prend un sens nouveau s'il est lu avec le Christ comme centre et de même Dieu. Ce visage de Dieu déformé parfois dans cette violence de l'Ancien Testament, qu'on lit le livre de Josué, le livre des rois, ce visage de Dieu prend vraiment une forme toute nouvelle, humaine et proche, grâce à Jésus. Et nous ne pourrons pas comprendre la Bible, et notamment l'Ancien Testament, sans mettre Jésus au cœur. C'est d'ailleurs tout en Luc 24, le sens des disciples d'Emmaüs, où Jésus leur explique, en partant des prophètes, de la loi et des prophètes, de Moïse et des prophètes, tout ce qu'il concernait, notamment sa passion et sa résurrection. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus lui-même qui fait cette exégèse, cette interprétation. Alors, Je pense aussi aux autres religions. Les autres religions, sans le Christ, c'est flagrant avec l'islam, ou avec l'hindouisme, le Nouvel Âge, etc., où Dieu est une espèce d'énergie, parce qu'en fait, Dieu n'a pas de forme. Dieu est, comme au Sinaï, informe, ouragan, trompette. Voyez, on demande à ne pas l'entendre, on a peur d'un Dieu personnel. Donc on en fait une force que l'on peut manipuler de son propre chef. Ça, c'est pour les religions orientales et le Nouvel Âge. Vous avez l'islam qui, lui, sans le Christ, eh bien, vous donne exactement le Dieu de l'Ancien Testament. Et un musulman, d'ailleurs, qui veut dire musulman soumis à Dieu, eh bien, un musulman ne voit pas, je veux dire, sa relation avec Dieu comme une relation d'amour, ou l'obéissance n'a de sens que comme un enfant par rapport à ses parents, que parce qu'il les aime, mais tout simplement par la peur. Et seule la foi chrétienne, par ce Jésus, par Jésus le médiateur, c'est cet homme et Dieu, Dieu qui prend visage humain, introduit l'harmonie et l'amour. Vous voyez? Et de même, sinon maintenant on bascule vers cette interprétation, vers la vie quotidienne, notre monde, si nous n'avons pas le regard fixé sur le ciel, regardez, là je vous lis la deuxième partie, mais vous êtes venu vers la montagne de Sion, figure de la Nouvelle Jérusalem. Entre parenthèses, Sion veut dire élevé, Sinaï veut dire falaise. La falaise est la notion d'effort, on essaie d'aller vers Dieu et tout est chaotique parce qu'on n'y arrive pas. Et Sion, on est élevé, on est déjà au but, on est porté. Donc vous êtes venu vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, comme je disais, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venu vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Vous êtes venu vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. On s'attardera sur la notion de juge et ses premiers-nés, ses justes, tout à l'heure. Mais ici, vous avez notre vie quotidienne, donc, qui paraît des fois bien chaotique, ouragan, ténèbres, on n'y voit pas grand-chose. Et ce qui peut apporter de l'harmonie dans notre façon de percevoir tous ces événements extérieurs qui, sans le lien de Jésus, paraissent mis bout à bout et paraissent n'avoir aucun sens. Et d'ailleurs, notre monde occidental va de crise en crise. Les gens ne savent plus à quel saint vouer, le Da Vinci Code, le Nouvel Âge, le matérialisme, le shopping. On vote pour n'importe qui nous promet n'importe quoi. C'est vraiment ça. Eh bien, seul le Christ, seul ce regard vers le ciel, vers Jésus, qui nous montre qu'il y a une autre dimension qui est là, qui est la véritable, qui vient féconder notre monde matériel et notre cœur. Eh bien, là, seule cette vision offerte par le Christ, qui est celui qui a, comme le dit Jean, la loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus, qui nous montre, c'est le Jésus qui nous montre la grâce, qui nous a ouvert les portes de la grâce. Seul ce regard apporte de l'ordre dans ce chaos que peut paraître notre vie ou la vie quotidienne, la vie de ce monde. Et pareil dans notre vie intérieure. Dans notre vie intérieure, nous avons l'impression que notre inconscient est un vaste territoire dont nous sommes dépendants, hein, nos défauts, des fois qui sont jusque dans notre enfance, nos blessures dont nous ne nous semblons pas maîtres et victimes, tout ce chaos qui est en nous, eh bien, grâce à Jésus, eh bien, tout ça va prendre une harmonie nouvelle. Si nous savons regarder à Jésus, lui le médiateur, celui qui apporte l'harmonie, comme le texte que je viens de lire. Regardez, vous avez ténèbres, ouragan, trompette, demander à pas l'entendre. Et là, vous avez quoi? Milliers d'anges, célestes, premier-né, les justes, perfection. Voyez? Eh bien, ça, c'est Jésus qui vous l'apporte. Jésus l'apporte dans notre vie intérieure. Pensons à Marc. Vous savez, la tentation au désert, dans l'évangile de Marc, et ce qui est flagrant, c'est qu'une fois que Jésus a vaincu la tentation, eh bien, il est servi par les bêtes. Les bêtes, c'est le symbole de toutes les forces de notre inconscient. Jésus met de l'ordre dans ces choses-là. Donc, que tout voulons mettre de l'ordre dans notre vie, notamment dans notre vie intérieure, eh bien, la première chose à faire, c'est pas forcément une psychanalyse, ou si elle est utile, mais c'est surtout de confier les résultats, soit que nous avons obtenu par une psychanalyse, si Dieu l'a voulu ainsi, parce qu'il se sert aussi des hommes, soit que Dieu nous révèle, ben soit, ça peut être en même temps, Dieu nous révèle dans la prière, quand toutes ces blessures remontent, eh bien, il faut lui confier à Jésus ces blessures, car lui seul peut les soigner avec efficacité. Et n'essayons pas de les soigner nous tout seuls, voyez? Donc ce chaos de la vie sans Dieu, que ce soit notre vie intérieure, notre vie dans la société, notre vie tout court quotidienne, que ce soit l'image de Dieu, la lecture de la parole, et l'ordre est amené par Jésus. ce message de grâce qui nous amène, cette présence qui nous donne plus qu'un message. Et alors, je voudrais m'attarder sur, ici, le texte parle de juge. Alors, évidemment, Dieu le juge de tous les hommes, mais quand on voit qu'est-ce que nous propose Dieu, c'est d'être le juge d'abord de ce qui nous défigure, de ce chaos. Et ce qu'il veut, c'est faire de nous des premiers-nés et nous amener à la perfection. Alors, n'ayons pas peur du jugement de Dieu, parce que le jugement de Dieu, c'est tout simplement le jugement sur ce qui nous salit, parce qu'il faut avoir un regard lucide pour pouvoir progresser. Et Dieu a ce regard lucide sur nous. Nous sommes pécheurs, et c'est parce qu'il a ce regard lucide qu'il peut nous relever. S'il fermait les yeux, nous serions toujours comme nous sommes. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de reconnaître la notion de péché, c'est-à-dire de ce qui nous salit, de ce qui nous défigure, de ce qui nous apporte le malheur. Et vous avez ici l'assemblée des premiers-nés et les justes arrivés à la perfection. Ah, je ne peux pas m'empêcher en tant que catholique de voir ici quand même, ce sont les saints parvenus après la mort au ciel. Et quand les protestants disent qu'on ne doit pas avoir un culte des saints, eh bien, ils devraient relire ce chapitre tout de même. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des dortoirs où tout le monde dort jusqu'à la résurrection finale. Dieu est entouré de ceux qui sont saints. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mal à demander aux saints de prier avec nous. Nous sommes appelés à nous avancer vers cette montagne où il y a les premiers-nés, etc. Et c'est aussi un encouragement de savoir que qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés et qui peuvent nous aider, et qu'ils sont tout simplement la préfiguration de ce que nous serons. C'est tout le sens de l'Assomption de la Vierge Marie d'ailleurs. Mais aussi, on peut regarder ces premiers-nés, vous voyez, dans nos difficultés à nous. Alors, bien sûr, il y a le ciel, l'interprétation littérale rejoint le ciel. C'est intéressant de savoir que malgré nos vies, où nous semblons vraiment défaits, battus, eh bien le Seigneur voit déjà en nous ces premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Nos noms sont déjà inscrits. Et cette vie n'est qu'une préparation, et il ne faut pas se concentrer sur les échecs, mais avoir toujours les yeux fixés sur le ciel, parce que le but de Dieu, c'est vraiment de faire de nous des premiers-nés, de nous faire naître dans le royaume, et de nous amener à notre perfection sur cette vie, par le purgatoire ensuite, et le paradis est une vie de progrès, parce que comme tout amour, eh bien nous apprenons à connaître l'autre de plus en plus, nous apprenons à connaître les autres, et surtout Dieu de plus en plus. C'est bien pour ça qu'il nous faut l'éternité, Dieu est si riche. Alors, c'est aussi un moyen, quand on repense à notre vie quotidienne, à notre vie intérieure. Voyez, Jésus, l'espoir qu'il nous donne, c'est aussi le Hébreux chapitre 11, hein, où il donne une magnifique définition de ce qu'est la foi. Il faut que je me souvienne un peu de mémoire, c'est pas toujours facile. Il donne une définition de la foi. Si je m'en souviens bien, alors, parce que je ne voudrais pas vous donner une définition tronquée, mais la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux, si je me souviens bien, là j'essaie même de retrouver le passage, la foi, ouais, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1. Frère, la loi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère, de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est l'illustration, ce passage en est l'illustration. Vous voyez, cet espoir. Nous sommes, dans notre vie, nous sommes soumis à des forces du chaos, dans notre vie quotidienne, dans notre vie intérieure. Eh bien, soyons conscients que déjà les premiers-nés, les prémices sont déjà dans ces périodes noires, déjà dans ce travail de la grâce au cœur de nos échecs, au cœur des échecs de nos frères, où rien ne semble bouger malgré notre intercession pour eux, notre charité, ou malgré ce qui semble ne rien bouger dans notre cœur, eh bien, regardons vers Jésus, et il nous dit que les anges sont déjà en fête, parce que eux, ils voient les premiers-nés dont les noms sont inscrits. Notre victoire est déjà inscrite, car la grâce, déjà au cœur, au début de son travail, si je veux dire notre cœur et celui de nos frères, eh bien, elle a déjà la victoire. C'est comme les premiers-nés déjà inscrits dans les cieux. Nous n'avons plus qu'à attendre par notre persévérance dans l'amour, la charité, les efforts, et la prière surtout, eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre que tout arrive à perfection. C'est juste arriver à la perfection. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que quand nous prions, quand nous faisons un travail sur nous-mêmes, ou quand nous prions pour nos frères et faisons un travail sur eux par notre charité, et par nos efforts d'amour, plutôt que de nous laisser aller à la rancune, et à la vengeance, et que nous optons pour le pardon et l'amour, eh bien ce travail, c'est déjà les prémices des premiers-nés de la victoire, et c'est le prélude des justes qu'il y a dans le cœur de nos frères, ces justes qui sommeillent, ou ces justes en nous qui sommeillent dans certaines parties de notre vie, des zones d'ombre, c'est le prélude à ce que tout arrive à sa perfection par la conversion et enfin par le ciel. Voyez, où cette vie, c'est comme les prémices, les premiers-nés, en attendant que nous arrivions à la perfection. Donc si nous avons ce regard de foi, eh bien, les échecs, ce qui paraît des échecs apparents, ce qui paraît ne rien bouger, eh bien, au lieu de baisser les bras, continuons à persévérer dans l'amour et la prière, et alors nous serons vraiment des chrétiens persévérants qui pourront transporter des montagnes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc si je résume le message par rapport à notre vie intérieure, le chaos et l'harmonie, hein, grâce à Jésus, le chaos se transforme en harmonie par rapport à la vision de Dieu des autres religions ou de l'Ancien Testament. Notamment, c'est comme ça qu'il faut lire la parole à la lumière du Nouveau Testament et par rapport à cette vie qui paraît parfois chaotique, mais qui prendra toute son harmonie aussi dans la vie éternelle. C'est avec ce regard fixé sur le ciel que tout prendra un sens dans nos vies et que la parole, l'Ancien Testament, prendra un sens. Et c'est pour ça que dans les autres religions, il faut absolument essayer d'amener le Christ par le respect, l'amour et la prière, mais ne pensons pas que les autres religions valent Jésus. Toutes les religions ne se valent pas. Et c'est pour ça qu'il faut bien sûr penser que les autres religions ont le droit, les autres croyants ont le droit à Jésus. Et il ne s'agit pas forcément de les convaincre s'ils sont fermés. On peut essayer de discuter avec eux et ne pas se dégonfler, si j'ose dire. Mais c'est à nous de le sentir. Mais au moins, prions pour eux et aimons-les avec cet esprit de prière et d'évangélisation. C'est-à-dire pensant que nos gestes de charité épaulent notre prière pour enfin qu'ils s'ouvrent à Jésus, dans ce monde ou dans l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager. Je vous suggère maintenant de prier, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour sonner un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Seigneur, vraiment, apprends-nous à lire ta parole avec Jésus comme centre. Que l'Ancien Testament, ben, prenne toute sa valeur à la lumière de ta croix, de ta résurrection. Donne-nous ce regard, Esprit Saint. Nous prions aussi pour les autres religions qui ont un Dieu bien lointain, et parfois nous-mêmes nous avons cette vision de Dieu. Oui, vraiment, donne ce visage de Jésus à Dieu dans leur cœur et dans nos cœurs. Oui, vraiment, que nous sachions que Dieu s'est fait homme, qu'il est notre ami et notre frère. Nous te soumettons nos vies et notre vie intérieure. Seigneur, apporte l'harmonie dans notre vie et dans nos cœurs. Et nous pensons notamment à bien sûr, nos propres cœurs, mais aussi à des personnes que nous sachons loin de Dieu et qui ont besoin de cette harmonie. Nous prions pour elles, pour que Jésus, en sa grâce, grandisse en leur cœur. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, cher internaute.